Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast. Si je vous demandais si vous connaissez Jésus, que me répondriez-vous? Oui, je sais qui c'est, oui, comme on connaît un voisin de palier qu'on croise de temps en temps. Ou bien, oui, un peu comme on connaît Napoléon parce qu'on en a parlé à l'école et que, quand même, on a une certaine culture générale. Ou le connaissez-vous personnellement comme on connaît un ami? On connaît les habitudes de nos amis, le son de leur voix, on sait ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Moi, c'est un peu comme ça que je connais Jésus. J'ai vraiment fait sa connaissance il y a environ 40 ans. Et depuis, notre amitié s'approfondit au fil des méandres de ma vie. Alors permettez-moi de partager mes expériences avec vous. Pour ça, je vous emmène faire un tour dans l'évangile de Matthieu. Matthieu était un ami proche de Jésus lorsque celui-ci était sur terre. Cette relation a changé non seulement sa vie, mais aussi celle de milliers et de milliers de personnes qui ont lu son témoignage. L'évangile de Matthieu se trouve tout au début du Nouveau Testament de notre Bible. Peut-être avez-vous des doutes par rapport à Jésus ou à la Bible? Alors rassurez-vous, car c'était pareil du temps de Matthieu. Et c'est pourquoi l'évangéliste va essayer de nous prouver que Jésus est bien le Sauveur dont nous avons tant besoin. Il démontre que Jésus est le roi des Juifs, mais aussi le Rédempteur du monde. Commençons par le début. Matthieu commence son récit avec une phrase étonnante. Je cite « Livre de la généalogie de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham ». Au premier abord, c'est pas trop accrocheur. Mais ses lecteurs, qui étaient juifs, comprenaient tout de suite de quoi il s'agissait et je vais vous expliquer. Dans le contexte de la culture juive, « fils » signifie « descendant ». Si on dit par exemple « Jean, fils de Paul », il est très probable que Paul ne soit pas le père, mais le grand-père ou même l'arrière-arrière-arrière-grand-père. Ainsi, quand nous lisons « fils d'Abraham », ça signifie que Jésus était un descendant d'Abraham. Et en quoi cela nous intéresse-t-il? Parce que Dieu a promis à Abraham que de lui naîtrait le peuple juif et que par celui-ci il bénirait tous les peuples de la terre. Donc pas seulement le peuple hébreu, mais nous aussi. Donc si Jésus est notre Seigneur, nous avons part à la bénédiction et je trouve ça absolument génial. Mais avant de mentionner Abraham, Matthieu écrit que Jésus est aussi le fils, donc descendant, de David. David était le roi le plus important d'abord de la Judée et 7 ans plus tard de tout Israël. Il était musicien et poète. Dieu lui avait promis que son trône subsisterait pour toujours. Donc si Matthieu va prouver que Jésus est l'accomplissement de cette promesse de Dieu, de cette prophétie. Maintenant, voyons qu'il ne va pas se laisser décourager, parce que Matthieu commence son récit avec une généalogie, une longue liste de noms, 42 pour être précise, dont certains nous sont totalement inconnus. Mais avant de lâcher prise, restez à l'écoute et laissez-vous surprendre. En Europe, lorsque nous présentons quelqu'un, on dira par exemple « Voici Jean Dutronc ». Il est dans la cinquantaine, il travaille chez Swatch à Bienne, il est marié et il a 2 enfants. Pas pareil en Israël. Là, on dirait peut-être « Voici le Jean du père Michel du Rousset ». Au lieu de définir la personne par son activité actuelle, on la présente dans son contexte familial. C'est ainsi que Matthieu nous présente Jésus. En faisant cela, il nous en dit bien plus qu'il n'en paraît. Il commence cette généalogie avec Abraham et la termine avec Joseph puis Jésus. Mais attendez, Jésus n'était pas du tout le fils biologique de Joseph? N'aurait-il pas plutôt dû décrire la lignée de Marie? Non, parce que c'est Luc qui a assumé cette tâche dans son évangile à lui. Et en plus, c'est ainsi que Matthieu nous montre que grâce à l'adoption de Jésus par Joseph, Jésus a hérité du droit légitime au trône de David. Les lecteurs de Matthieu l'ont tout de suite compris. Et voici que nous trouvons dans cette généalogie quelque chose d'extraordinaire. Il s'y trouve bien des héros de la foi, mais aussi des personnes qui ont gravement échoué. C'est quand même très spécial. Parce qu'en général, nous sommes assez réticents à faire référence à nos ancêtres ne répondant pas aux attentes de la société. Je me souviens qu'un jour, j'ai fait connaissance par hasard d'une vieille dame qui m'a invité à prendre le thé. En regardant les images accrochées au mur de son salon, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'y découvris une photo du mariage de mes parents. De fil en aiguille, nous avons découvert nos liens de parenté. Elle était ma tante. Personne ne m'avait jamais parlé d'elle et son nom ne figurait nulle part dans l'arbre généalogique que j'avais reçu de ma mère. Pour une raison qui m'est inconnue, on l'avait tout simplement biffé de la liste. Matthieu ne l'aurait probablement pas fait, car dans sa généalogie de Jésus, nous trouvons entre autres Jéconias. Jéconias était un roi terrible sur lequel Dieu a même prononcé une malédiction. La prostituée Rahab figure également dans la liste des ancêtres de Jésus. Ensuite, nous y trouvons Judas et Tamar. Judas était un des 12 fils de Jacob. Tamar était sa belle-fille. Pour revendiquer son droit à un descendant, elle s'est déguisée en prostituée, a eu des relations sexuelles avec son beau-père et c'est ainsi qu'elle est tombée enceinte de 2 fils. Pas vraiment de quoi se vanter. Nous y trouvons également Ruth. Ruth était une femme moabite. Les moabites et les ammonites étaient des descendants de Lot. L'histoire derrière ces deux peuples est assez horrifiante. Après que Dieu ait averti Lot qu'il détruirait Sodome et Gomorre, celui-ci fuit avec ses filles et se cacha dans une grotte. Là, ses filles ont incité leur père à boire et lorsqu'il fut ivre, elles ont couché avec lui. De ces relations incestueuses ont émergé les Moabites dont Ruth était issue. Des histoires dont personne ne peut se vanter. Mais il y a là encore une chose. À l'époque, il n'était pas habituel d'inclure les femmes dans la généalogie. Pourquoi Matthieu l'a-t-il donc fait? Car en faisant cela, nous apprenons quelques vérités très importantes à ne pas oublier. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour se faire applaudir. C'était sa volonté de naître dans une famille pauvre. Ensuite, il a habité à Nazareth, une ville qui avait très mauvaise réputation à l'époque, peut-être un peu comme Saint-Denis aux yeux des Parisiens. Plus tard, en traversant le pays, il avait comme amis, entre autres, des prostituées, des collecteurs d'impôts et toutes sortes de gens mal vus par la société. Jésus ne se souciait pas des camps, dira-t-on, parce qu'il était venu, selon ses propres paroles, pour sauver ce qui est perdu. Donc personne n'est trop pauvre ni trop mauvais pour ne pas être aimé par Jésus. Si vous avez l'impression d'être un perdant et si vous accumulez les échecs, alors ne pensez surtout pas être privé du droit de venir à Jésus. Au contraire, Jésus n'est pas venu pour les forts, ceux qui, comme on dit, pètent la forme, mais bien pour les faibles et les malades comme nous. C'est lui-même qui nous l'a dit. Le deuxième point à retenir est le suivant. Jésus non seulement connaît nos faiblesses et nos défaites, mais il peut même s'en servir pour nous faire du bien. Regardons l'histoire d'Israël. Elle est pleine d'héroïsme et aussi pleine d'échecs, tout comme nos vies. Nous ne sommes que des humains, nous faisons des fautes, involontairement et parfois même délibérément. Nous prenons de mauvaises décisions et nous nous perdons. Dans de telles situations, Jésus est particulièrement proche de nous. Il est le bon berger. Il vient à notre secours lorsqu'on s'en mêle dans les ronces de la vie. Quand nous sommes faibles, confions-nous à lui. Il veut faire de nos sales brouillons des chefs-d'œuvre et il peut le faire. Dans le prochain épisode, nous examinerons de plus près l'histoire incroyable de la conception et naissance de Jésus ainsi que du rôle que Joseph a joué dans cette histoire. J'espère que vous resterez à l'écoute et je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.